RFI, 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France sur RFI.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous de 30 minutes consacré à l'actualité française.
Christophe Paget.
Ça a pris un peu de temps mais c'est fait. On connaît désormais le nom de celui qui sera à la tête du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises. Ce sera le champion olympique Edgar Gros-Piron. Nous l'entendrons dans un instant. Emmanuel Macron indique qu'il va réunir dans les prochains jours les forces politiques françaises. Objectif du président, leur présenter l'état des lieux et les initiatives de la France sur le dossier ukrainien, alors qu'Américains et Russes s'engagent dans des pourparlers. La nomination de Richard Ferrand, le choix du président pour diriger le Conseil constitutionnel s'annonce compliqué. Laurent Wauquiez a annoncé que les députés du groupe LR à l'Assemblée voteront contre lors de la commission des lois de demain. RFI avait retrouvé leurs traces à Damas il y a 2 mois. 3 orphelins français d'une même fratrie ont été rapatriés en France hier. Nous entendrons la réaction de Marie Dauzé, l'avocate de leur famille. À suivre également dans cette demi-heure d'information, une exposition photo sur la Kabylie. Le journal des Outre-mer, des parents d'élèves manifestent en Nouvelle-Calédonie. Et puis le Conseil Santé, Caroline Paré et son invité nous expliqueront comment soigner le mal de dos.
Radio France Internationale.
Après des mois de retard, c'est officiel. Les JO d'hiver 2030 dans les Alpes françaises ont enfin leur comité d'organisation. Le COJOP, le COJOP, a été présenté aujourd'hui à Décines, en banlieue de Lyon, dans le stade de l'Olympique lyonnais. La grande annonce, c'est surtout qu'après le retrait du champion olympique de biathlon, Martin Fourcade, un autre ex-médaillé français prend la direction du comité, Edgar Gros-Piron, champion olympique de ski de bosse en 1992 à Albertville. Le nouveau visage des JO d'hiver de 2030 a livré sa vision pour l'organisation de la compétition.
Il faut qu'on organise des jeux impeccables, irréprochables. On fera tout ce qui est en notre possible, de notre mieux, pour faire en sorte que ces jeux aient une empreinte écologique la plus mesurée possible. C'est mon mandat, mais je ne vais pas le faire tout seul, évidemment. Je vais être le porte-parole d'abord des athlètes qui sont là. Parce qu'on organise d'abord des jeux pour les athlètes. Et je vais chercher le consensus pour faire en sorte qu'on avance. Même si j'ai une vision, je ne suis pas là pour l'imposer, mais je suis là pour convaincre de ce qui va être bon pour ces jeux. Si on arrive à faire ça, tous ensemble, on va ressortir, mais de là avec une fierté. On ne refermera jamais cette parenthèse olympique qu'on a ouverte cet été.
Edgar Gros-Piron, au micro de Nicolas Feldman.
24 heures en France.
Emmanuel Macron annonce ce mardi qu'il va réunir dans les jours qui viennent les forces politiques françaises. Objectif, évoquer la situation en Ukraine, alors qu'Américains et Russes s'engagent dans des pourparlers. J'aurai l'occasion de réunir les groupes parlementaires et les partis pour leur présenter l'état des lieux et les initiatives de la France, a indiqué le chef de l'État dans une interview à la presse quotidienne régionale. On va maintenant s'intéresser et... ce n'est pas loin de ce dont va parler Emmanuel Macron dans les prochains jours, au budget de la défense. Alors que les États-Unis se détournent de plus en plus du vieux continent et que la conférence de Munich sur la sécurité vient de se tenir, l'Union européenne et l'Allemagne se disent prêtes à revoir les règles de déficit pour augmenter significativement les dépenses militaires. Un projet soutenu par le président Emmanuel Macron est relativement consensuel au sein de la classe politique. Victorien Villaume.
Les États-Unis menacent de réduire leur soutien à l'OTAN et il est temps que l'Europe se réveille, s'accordent à dire de nombreux députés. Dans le camp présidentiel, Éléonore Carrois, du Parti Renaissance.
La déclaration de J.D. Vance à Munich fait l'effet d'une douche froide et je pense que c'est une réaction qui est assez salutaire. On ne peut pas ignorer les menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'Europe et il est absolument important qu'on soit indépendant et autonome aussi dans notre capacité à nous défendre.
À gauche, on estime qu'il ne faut pas hésiter à s'affranchir de la règle des 3% de façon générale pour l'écologie. Mais donc également pour investir dans la défense, l'écologiste Benjamin Lucas.
Il ne faut pas qu'on soit naïf. Monsieur Trump nous met au pied du mur. Nous sommes aujourd'hui pris en tenaille entre Monsieur Trump et Monsieur Poutine, dont aucun des deux n'a à cœur la survie du continent européen. Je pèse mes mots.
A contrario, le Rassemblement national dénonce une idée absurde avec un risque de dérapage budgétaire. Philippe Ballard.
Ça n'existera jamais une défense européenne. Là, on risque de perdre, si on va jusqu'au bout de ce mécanisme, notre notre souveraineté financière en matière de gestion de la déficit et de la dette. Donc c'est une très, très, très mauvaise idée.
La France a de toute façon voté il y a déjà un an et demi un budget en forte hausse pour les armées, 400 milliards d'euros de dépenses sur 7 ans.
François Bayrou n'est jamais intervenu, ni de près ni de loin, auprès des enquêteurs ou de la justice dans l'affaire de violences sexuelles au sein de l'école catholique Bétaram. C'est ce qu'a dit le Premier ministre lors de la séance des questions à l'Assemblée. Par contre, il a contre-attaqué en visant le gouvernement de Lionel Jospin à la fin des années 90, affirmant que le procureur général a tenu au courant la chancellerie et donc la ministre de la Justice de l'époque, Elisabeth Guigou. Il a aussi souligné que devant un signalement aussi important, la ministre de l'Éducation, Ségolène Royal à l'époque, avait forcément été tenue au courant. Ségolène Royal qui a réagi, elle envisage une action pour dénonciation calomnieuse. La nomination de Richard Ferrand s'annonce compliquée. C'est le président Emmanuel Macron qui avait choisi ce proche pour prendre la tête du Conseil constitutionnel. Et Laurent Wauquiez a annoncé que les députés du groupe LR à l'Assemblée voteront contre demain lors de la commission des lois. C'est une personnalité qui pose un problème d'éthique, qui pose un problème d'impartialité et qui pose un problème parce qu'il n'a pas d'expertise juridique, a affirmé Laurent Wauquiez. Alors, Ferrand ou pas Ferrand, Raphaël Delvolvé.
Ce suspense, on le doit en grande partie au chef des 6 députés LR de la commission des lois, Laurent Wauquiez.
Le risque, c'est qu'avec Richard Ferrand se reproduise ce qu'on a connu avec Laurent Fabius, un conseil constitutionnel qui ne juge plus en droit, mais avec une dérive idéologique. C'est ainsi, par exemple, que la loi sur l'immigration a été vidée de sa portée.
Chez les 19 sénateurs Les Républicains, pas de consigne de vote, mais une majorité d'entre eux devrait dire non quand la gauche dans son ensemble saisira cette occasion de mettre Emmanuel Macron en difficulté, même si l'insoumis Manuel Bompard ne le dit pas comme ça.
Les positions qu'il a prises récemment, appelant le président de la République à exercer un troisième mandat, rendent impossible qu'il puisse exercer cette fonction avec la neutralité nécessaire pour arbitrer des sujets extrêmement complexes.
La position des LR modifie donc la donne et agace dans le bloc central qui soutient la nomination. Pour Marc Fesneau du Modem, Laurent Wauquiez se sert du cas Richard Ferrand pour attaquer son rival dans la course à la présidence de son parti, Bruno Retailleau.
Je crois comprendre de ceux qui sont à l'intérieur du gouvernement auraient la parole moins libre que ceux qui sont à l'extérieur. À la vérité, je pense qu'il y a quelque chose quand même d'un esprit de responsabilité qui devrait prévaloir.
Pour faire échouer la nomination, il faudra tout de même une majorité des 3/5 des votants de chaque commission. La consigne donnée aux 10 électeurs du Rassemblement National décidée après l'audition va donc être décisive. Et pour ne rien arranger, le vote est à bulletin secret.
Raphaël Delvolvé. Des images glaçantes au deuxième jour du procès des geôliers présumés de l'organisation État islamique. 5 hommes dont les Français Mehdi Nemouche et Abdelmalek Tanem, présents dans le box, sont poursuivis pour leur implication dans la séquestration d'otages occidentaux, parmi eux 4 journalistes français. C'était entre 2013 et 2014 en Syrie. Ce mardi, la cour, à Paris, a commencé à visionner les images de vidéosurveillance de l'un des lieux où ils ont été enfermés. Un hôpital d'Alep, transformé en centre de détention et de torture pour otages occidentaux et pour prisonniers syriens. Des images terribles, disent les enquêteurs. Laura Martel.
56 000 fichiers vidéo, soit 2 860 heures d'enregistrement. Il a fallu un travail de moine copiste, résume l'enquêteur, pour analyser ces images issues des 12 caméras de l'hôpital, dont 4 filment l'intérieur. Des plans fixes et muets qui révèlent une torture institutionnalisée et systématique, des violences débridées, sadiques, infligées avec délectation, passage à tabac, prisonniers suspendus à des crochets, simulacre d'exécution, décrit l'enquêteur. Dans la salle, le silence est de plomb quand apparaît à l'écran une longue file de prisonniers aux yeux bandés, alignés par des gardiens cagoulés contre le mur d'un long couloir au sous-sol. Des coups qui pleuvent, des hommes pendus par les poignets, d'autres inertes, traînés au sol. Plus tard, un enfant escorté, foulard sur les yeux. Ces violences, qui sont déjà extrêmement sinistres, ne sont pas le pire de ce qu'ont subi les otages. On ne voit jamais l'intérieur des cellules, pointe l'enquêteur, qui rappelle l'obsession du groupe terroriste de créer une sorte de Guantanamo inversé. À force de les lister, de les synthétiser, on finit par banaliser ces horreurs, mais il ne faut surtout pas en oublier la réalité, termine l'enquêteur. Une inconcevable réalité endurée pendant plus de 2 mois et demi par les 4 journalistes français, dont 3 seront ce mercredi à la barre pour tenter, par leurs mots, de nous la faire toucher.
Laura Martel, Syrie toujours, mais là, c'est pour une bonne nouvelle. RFI avait retrouvé leurs traces à Damas il y a 2 mois. 3 orphelins français d'une même fratrie ont été rapatriés en France hier lundi. Leurs parents, des djihadistes, sont morts en 2019 dans le nord-est syrien, lors des derniers jours du califat autoproclamé de l'État islamique. Les enfants qui ont vécu les bombardements, les camps, l'errance, ont atterri dans un orphelinat de Damas, côté régime. Depuis 5 ans, leur famille en France se battait pour leur rapatriement. La réaction de Marie Dauzet, leur avocate.
un immense soulagement. Hein. 4-5 ans, c'est toute une enfance. Donc, ce qu'on sait, c'est que leur maman est décédée dans le camp d'Alol, là où se trouvaient les enfants, qu'ensuite, ils ont été emmenés par une autre femme à Damas. Donc, ils ont été sortis des camps, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu faire partie des opérations de rapatriement organisées par le Quai d'Orsay en 2022 et 2023. Et comme il n'y avait plus, évidemment, de relations diplomatiques avec Bachar al-Assad, le Quai d'Orsay nous opposait à chaque fois une impossibilité d'organiser ce rapatriement de ces trois orphelins. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup pesté. Aujourd'hui, ces enfants ont enfin rejoint la France, qu'il était temps pour eux, mais pour leur famille en France aussi. Parce que leurs familles respectives hein, ont gardé des relations avec ces enfants. Ces enfants n'arrivent pas en France sans rien connaître de leur histoire. Ils savent que leurs familles les attendent et ils ont tissé un lien, même virtuel, avec leur famille. Donc il était vraiment temps qu'ils rentrent.
Marie Dosé jointe par Muriel Paradon. On va maintenant en Nouvelle-Calédonie, où le drapeau indépendantiste ne figurera plus sur les permis de conduire. En effet, la Cour administrative de Paris a donné raison au parti Génération NC, un parti non indépendantiste. L'étendard du FLNKS figurait sur le document depuis 2023, à l'initiative du gouvernement calédonien, dirigé à l'époque par les, justement, indépendantistes.
24 heures en France, Christophe Paget.
24 ans en France qui continue avec une exposition photographique, une exposition qui s'appelle le Monsferatus du photographe Karim Kahl, une exposition sur la Kabylie qui est à voir à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris. Monsferatus, c'est le nom qu'ont donné les Romains au massif montagneux du nord de l'Algérie, réputé inviolable, et qui a résisté aux conquérants. Karim Kahl a photographié les villages accrochés aux crêtes, il a capté les paysages urbains, la végétation, les sols, dans des photos à la limite de l'abstraction et où la nuit domine. Un livre publié aux éditions Xavier Barral accompagne l'exposition du photographe, qui est le 13e lauréat cette année du prix Henri Cartier-Bresson. Karim Kahl est l'invité de Muriel Malouf.
Karim Kahl, bonjour.
Bonjour.
Que représente la Kabylie pour vous ?
La Kabylie, elle incarne un certain nombre de récits que j'ai entendus depuis mon enfance, des récits liés à un espace de montagne très spécifique, à des populations qui ont des caractéristiques très singulières, à un territoire qui est un émetteur culturel très puissant, et puis évidemment des récits liés à la guerre d'indépendance, à la guerre d'Algérie, aussi très nombreux.
Vous avez photographié que la nuit. Pourquoi ce choix ?
Au départ, ce choix s'est imposé pour des questions de forme. J'élabore une photographie documentaire qui est en grande partie abstraite. Et la nuit, l'obscurité, c'était une solution pour travailler au flash, éclairer certains éléments de mes compositions et laisser le reste dans l'obscurité, donc dans une forme d'abstraction. La nuit, c'est aussi le temps des transgressions, c'est aussi l'espace de construction mythologique pour certains territoires, une forme d'infréquentabilité.
Alors quand on regarde vos photos, je commence par le début de l'exposition, on voit des images de la nuit noire avec des villages au lointain perchés ou un sommet éclairé. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter par cela ?
L'idée générale, c'était de faire sentir l'élévation, le caractère perché de ces villages. Donc les villages de Haute-Kabylie sont construits sur les lignes de crête, en haut des collines, avec des abords souvent inaccessibles, constitués d'une garrigue assez dense ou de la forêt, et la nuit plongée dans l'obscurité.
Vous parliez de l'esprit de résistance hein, de la Kabylie hein, durant la colonisation. Est-ce que, justement, ces crêtes sont aussi un symbole de par la difficulté d'y accéder ?
Oui, absolument. C'est même au-delà d'un symbole, c'est une des raisons de l'impénétrabilité du territoire et de la difficulté qu'ont les entreprises coloniales à dominer ces espaces et ces populations. C'est que les villages sont fichés tout en haut de ces collines. Donc la forme de la représentation nous raconte aussi le rapport au monde qu'entretiennent les populations.
Alors il y a ces crêtes et ces villages perchés et il y a aussi les sols dans votre travail.
Oui, j'ai pour habitude de traverser des espaces qui m'intéressent, des territoires, une forme de structure urbaine et puis de composer des images, paysages urbains, de nuit et de le photographier au flash avec une vitesse d'obturation rapide. Et finalement, on n'a que les premiers plans qui apparaissent, qui vont être enregistrés. Et toute la capacité, finalement, de projection de la perspective disparaît dans l'obscurité.
Est-ce que ce travail sur la Kabylie, Karim Khal, est aussi une sorte de travail identitaire ?
Pas vraiment. J'ai pas cherché à révéler ou à creuser un éventuel lien. Dans l'élément biographique qui est important, c'est que un certain nombre d'histoires, de récits, de légendes liées à ce territoire se transmettent de manière orale. Et ayant des liens familiaux avec le territoire, j'ai pu recevoir ces histoires depuis l'enfance. Et en fait, j'ai une proximité, une familiarité avec ce territoire que malheureusement d'autres personnes ne peuvent avoir s'ils n'ont pas de liens familiaux.
Merci.
Merci.
Karim Khal au micro de Murel Malouf. L'exposition Mons Ferratus, c'est en ce moment et jusqu'au 13 avril à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris.
Reportage France.
C'est sans doute la plus grande affaire de pédocriminalité en France, l'affaire Joël Le Squarnec. Cet ancien chirurgien est accusé de viol et d'agression sexuelle sur 300 enfants entre 1989 et 2014 dans plusieurs hôpitaux. Son procès devant la cour criminelle du Morbihan s'ouvre le 24 février prochain à Vannes, dans l'ouest de la France. Deux mois après celui des viols de Mazan, il s'annonce lui aussi hors norme et très médiatique. La ville de Vannes, 50 000 habitants, et son tribunal se préparent à l'accueillir depuis des mois, ce qui nécessite une réorganisation de l'activité du tribunal, avec des moyens humains et budgétaires très limités. Reportage Baptiste Coulon.
300 victimes, 60 avocats, des dizaines de journalistes attendus. Jamais le tribunal de Vannes n'a accueilli un procès aussi hors norme. Cela fait 3 ans que l'organisation a débuté dans cette petite juridiction, mais une juridiction loin d'être seule dans les préparatifs. Ronan Leclerc est le secrétaire général du parquet de Rennes.
Nous avons demandé à ce que nos collègues, notamment parisiens, qui ont en charge l'organisation du procès V13, mais qui sont également intervenus dans d'autres procès, comme celui de Nice, puissent nous faire un retour d'expérience de manière à ce qu'on puisse profiter de leurs acquis en termes de méthodologie.
Car le procès va durer 4 mois, mobiliser 7 magistrats, sans que l'activité du tribunal ne cesse pour autant. Un casse-tête, mais là aussi, tout est affaire d'anticipation.
Il a fallu faire tout un travail en amont pour que les dossiers criminels autres que celui de M. Le Squarnec puissent être examinés avant le procès de Squarnec et après le procès de Squarnec, en veillant bien d'ailleurs à ce que les délais qui nous sont imposés par la procédure pénale le soient pleinement.
Ce procès hors norme a aussi un coût pour la justice. 3 millions d'euros pour aménager 3 annexes à la petite salle du tribunal. L'une pour le public, une autre pour la presse et un ex-amphithéâtre d'université pour accueillir les parties civiles.
J'ai rendez-vous avec monsieur le maire.
Le maire de Vannes, David Robeau, l'a mis à disposition gratuitement.
Chacun de vos éditeurs connaît l'état des finances publiques et celle du ministère de la Justice. Je me voyais mal demander un loyer. Je pense qu'en tant qu'élu de la République, on doit servir la justice. Si je peux ramener de la fluidité plutôt que de la complexité à ce procès, j'en serais content.
Et puis il faut accompagner les parties civiles. C'est le rôle de l'association France Victimes 56. Sa directrice, Karine Duneuf-Jardin, en a déjà reçu plusieurs dans son bureau.
Elle se retrouve engagée dans une machine judiciaire où il faut appréhender aussi les termes, comprendre mais c'est quoi se constituer partie civile, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que je suis obligée de prendre un avocat, combien ça va me coûter. Donc nous, on est là vraiment pour les informer et qu'elles aient le maximum d'éléments en leur possession pour prendre leurs décisions.
Et pour les épauler durant l'audience, France Victimes met à disposition une juriste.
Ici, on a le bureau donc de la psychologue.
Et seulement une psychologue.
Il eût été préférable d'en avoir deux.
Mais le recrutement d'une seconde praticienne a été stoppé net il y a quelques semaines. André Roland est le président de l'association.
Nous n'avons pu travailler qu'à moyen constant. Pour une raison très simple, c'est que la France n'avait pas de budget. Alors peut-être que ça va arriver maintenant qu'on a un budget.
Deux psychologues, ce serait un minimum, estime André Roland, pour accompagner les 300 victimes présumées de Joël Le Squarnec.
Un reportage de Baptiste Coulon. Le procès commence lundi prochain.
Le journal de l'Outre-mer.
En Nouvelle-Calédonie, l'Union des groupements de parents d'élèves ne lâche pas l'affaire, comme on dit, et continue de manifester son mécontentement devant les locaux de la province sud. Bonsoir.
Bonsoir. Les raisons de la colère, les restrictions budgétaires décidées par la province, restrictions qui ont raboté les bourses et les subventions pour la cantine scolaire. Jean-France Toutikian est le secrétaire de l'UGPE. Il est au micro de Sheima Riaï.
Tous les jours, il y a des enfants qui se signalent au local de l'UGPE.
Il y a de l'inquiétude, il y a du désespoir, il y a en même temps de la colère. Il y a un mélange de sentiments complexes. Il faut vraiment très vite. Là, c'est une bombe sociale à laquelle on est en train d'être confronté. Il faut très vite que la province sud apporte des solutions. Déjà, il y a de l'absentéisme. Il y a des enfants qui n'ont pas pu faire leur rentrée hier pour différents problèmes, problèmes de transport, problèmes de repas à midi. Et très vite, il va y avoir de la déscolarisation. Il va y avoir une déscolarisation rampante.
Direction la Guyane avec un tout autre sujet. 3 avions de chasse, 3 rafales, plus 3 autres chargés de la surveillance, du transport et du ravitaillement. Le ciel de la Guyane sera placé sous haute surveillance dans les prochains jours. Une mission de sécurisation de l'espace aérien autour du centre spatial guyanais de Kourou. Mais pas seulement. Ludmilla Lewis.
Ce son que vous avez peut-être entendu ces dernières heures dans le ciel guyanais est celui d'un rafale. 3 de ces avions de combat de l'armée de l'air et de l'espace sont arrivés ce lundi sur la base aérienne 367 à Matoury dans le cadre de la mission Bubo. Le général Patrice Hugret est chef de l'opération.
L'objectif principal, c'est évidemment la protection du centre spatial guyanais, la protection aérienne du centre spatial guyanais. Donc on vient avec des moyens supplémentaires, le Rafale, l'AWACS la semaine prochaine. On a un avion logistique. On vient renforcer notre bulle 3D pour s'assurer que tout se passe bien le jour du tir. Cette mission et ce tir est assez particulier parce qu'il y a aussi le satellite militaire CSO.
Mais les 3 Rafales arrivées sur le territoire guyanais plus d'une semaine avant le lancement de la fusée seront aussi d'une grande aide pour d'autres opérations liées notamment à la lutte contre l'orpaillage illégal ou à la pêche illicite. Explication du général Marc Le Bouil, commandant des forces armées en Guyane.
Ils vont aider en faisant des survols, en prenant des photos, des éléments en fait qui détectent au sol, par exemple, également en donnant du renseignement pour des personnels, en particulier des forces terrestres, qui vont pouvoir ainsi agir directement au plus près en fonction du renseignement qui leur aura été donné.
Au total, 120 militaires interviendront en complément des forces armées de Guyane pour sécuriser le second vol d'Ariane 6, prévu ce mercredi 26 février à 13h24, heure locale.
Saint-Pierre-et-Miquelon, pour terminer, les élèves de terminale du lycée, car il n'y en a qu'un, ont échangé par visioconférence lundi après-midi avec des étudiants déjà installés en métropole. L'occasion pour eux et pour elles de se préparer au grand saut de l'entrée dans les études supérieures. Reportage Leïla Derouet.
Ces rencontres organisées à la demande des élèves sont essentielles pour finaliser leur choix d'orientation, comme l'explique Julien Génon, proviseur adjoint.
L'objectif, c'est de permettre à nos lycéens d'être accompagnés dans le cadre de la procédure Parcoursup, de les aider dans leur choix d'orientation et aussi de les préparer à l'enseignement supérieur en prenant connaissance des attendus, en rencontrant des étudiants de métropole et prioritairement des étudiants qui sont originaires de l'université de Caen.
En présentiel ou en visioconférence, les étudiants et jeunes diplômé Saint-Pierret aiguille la nouvelle génération lors d'entretiens personnalisés, des rencontres que Malo, Victor et leurs camarades pourront mettre en valeur dans leur dossier de candidature.
Franchement, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir organisé ça, de pouvoir avoir quelqu'un qui peut nous parler, surtout quand on a une idée précise de ce qu'on veut faire. Oui, c'est vrai que des fois, on s'imagine des trucs et au final, on a un peu des idées reçues, si on peut dire ça comme ça.
Dans une ambiance décontractée, les intervenants répondent au mieux aux inquiétudes des lycéens sur un parcours qu'ils connaissent bien. Et c'est avec plaisir qu'Emma, Benoît et Maëlle ont répondu présent.
À Saint-Pierre, de par l'éloignement géographique, on n'a pas tout ce qui est salon d'étudiants. Moi, quand je suis arrivée à Caen, tous les gens autour de moi connaissaient déjà la fac, étaient déjà venus. Parce qu'au lycée, en métropole, ils ont des salons d'étudiants, ils ont des journées dans l'année où ils vont visiter les facs, où les deuxièmes années leur expliquent, etc. À Saint-Pierre, on n'a pas cette chance. Donc en fait, c'est à nous, tous les étudiants de l'archipel, de faire un peu ce travail de visio, ou si on est sur place... D'expliquer, c'est à nous de faire un peu notre propre salon d'étudiants, quoi.
Ça fait toujours plaisir de partager où on a été, ce qu'on a vécu. Puis je pense que c'est une bonne chose pour eux, ça les aide pour la suite.
Les 54 élèves scolarisés en terminale cette année ont jusqu'au 13 mars pour continuer de réfléchir et finaliser leurs vœux.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée à vous aussi, Benoît Ferrand.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
Et on va s'intéresser aujourd'hui, ce soir, au mal de dos. Avec l'invité de Caroline Paré, on apprend qu'en cas de mal au dos, il faut bouger, sauf dans certains cas.
Docteur Awa Chandao, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin interniste et rhumatologue à l'hôpital Aristide-Le Dantec à Dakar au Sénégal. Pour quelle douleur dorsale l'immobilisation est-elle recommandée?
L'immobilisation est recommandée dans les douleurs dorsales seulement en phase aiguë où la douleur est vraiment intense. On peut immobiliser, mais pas trop. Et l'idéal, c'est de maintenir vraiment une activité tolérable.
Après cette phase aiguë, d'ailleurs, cette phase aiguë, en général, elle dure combien de temps?
Moins d'une semaine, dans les 3-5 jours maximum.
À ce moment-là, il est recommandé de reprendre le mouvement, l'activité physique?
Oui, reprendre le mouvement dès que possible. Même en phase douloureuse, essayer de petites activités d'étirement du dos, mais ne pas vraiment garder le lit pas trop longtemps.
Comment savoir justement pour ne pas trop forcer et en fait ne pas ressentir à nouveau ces souffrances, ces douleurs aiguës?
L'activité doit être adaptée à l'état de santé de la personne en même temps et aussi c'est à elle de voir si elle supporte ou ne supporte pas et aussi sous conseil d'un médecin ou bien d'un kinésithérapeute.
Est-ce que l'on peut reprendre cette activité en prenant en même temps des antalgiques ou c'est plutôt déconseillé?
Bien sûr, parce que si on prend les antalgiques ou bien les anti-inflammatoires en phase aiguë, ça permet non seulement de réduire rapidement la douleur, de réduire l'intensité de la douleur et de réduire la durée de la poussée. Et si la douleur est réduite ou bien même si la douleur disparaît carrément, ça permet de reprendre plus rapidement les activités physiques, que ce soit activité professionnelle et activité sportive.
Merci Dr Awa Chandao. Dans Priorité Santé aujourd'hui, l'écriture qui guérit. Comment l'écriture peut-elle agir notamment sur un traumatisme psychique, des récits pour exprimer, des récits autobiographiques ou de fiction pour réparer? On se donne rendez-vous à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci Caroline et à tout à l'heure. C'est la fin quasiment de 24 heures en France. Merci à Valentin Vanner à la réalisation et à François Ballarin à la rédaction en chef. Dans quelques instants, Afrique Soir, mais d'abord, on fait un point sur la bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones grappille 10 petits points et termine à 44 556. Le Nasdaq, lui, avance de 14 points et revient à 20 041. L'inquiétude suscitée par le risque de détérioration de l'Alliance Atlantique, sous l'effet d'une part de sanctions commerciales américaines qui devraient viser particulièrement l'Allemagne, et d'autre part, sous l'effet d'un accord pour mettre un terme à la guerre en Ukraine qui fasse la part trop belle à la Russie, tout cela relance l'inquiétude et la hausse de l'or. L'once de métal fin grimpe de plus d'1% et termine à plus de $2,935, un gain de près de 2%. On note au passage que les crypto-monnaies, conçues théoriquement pour servir de refuge en cas de crise, sont largement dans le rouge. Le marché obligataire est mal orienté aujourd'hui en dépit des déclarations du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, selon lesquels son hypothèse de base reste que les hausses de droits de douane proposées par l'administration Trump n'auront guère d'impact sur l'inflation. Le rendement du T-bond à 10 ans remonte à 4,55. Hausse de quelques 15% du cours d'Intel, le géant taïwanais des semi-conducteurs, TSMC, envisage de s'associer avec Broadcom en vue de se partager Intel. TSMC s'intéresse aux usines de fabrication de puces, Broadcom s'intéresse aux activités d'ingénierie et de conception de composants. L'euro s'effrite à 1,0446, le pétrole américain s'offre plus d'1% et revient à près de $72. Le Dow Jones et le Nasdaq sont pratiquement inchangés aujourd'hui, mais l'indice S&P 500, en gagnant 0,2%, établit un nouveau record.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Guinée, le gouvernement est en immersion à l'intérieur du pays. Une tournée visant à s'enquérir des réalités de la population, mais une partie de la société civile y voit une campagne déguisée pour soutenir la candidature du général Doumbouya. Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Pourquoi tout est une histoire de molécules?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
De notre premier souffle jusqu'au dernier, les molécules qui nous constituent interagissent sans cesse.
Elles se rencontrent, s'emboîtent et se séparent. La vie, l'amour, la mort.